J'avais préparé au courant de cette semaine une prédication et puis nous avons eu notre journée de formation hier sur le livre de Ruth. Et du coup, je suis revenu un petit peu sur mes décisions en disant bien qu'on allait ce matin peut-être voir les derniers points que nous n'avons pas vus hier lors de cette formation. Alors, nous avons étudié le livre de Ruth. Goethe disait que c'était la plus belle des idylles. Et puis les Juifs disent que c'est la plus belle des femmes. Ruth. Et en même temps, c'est un livre qui, à mon sens, devrait être lu et interprété dans toutes ses dimensions. C'est le livre le plus féministe qui soit. Puisque dans ce récit, les femmes occupent toute la place et même s'approprient, rentrent dans des dimensions qui ne leur étaient pas autorisées auparavant. C'est aussi un livre qui nous parle du Christ, qui nous parle des promesses qui se trouvent en lui. C'est un livre éminemment christologique. C'est aussi un livre qui nous parle de nous, qui nous parle de la manière dont nous sommes appelés à revenir à Dieu, ou à venir à Dieu. Les deux. Il y a à la fois le retour du croyant et il y a à la fois le retour ou la venue de celui qui ne connaît pas Dieu, qui rentre dans les promesses de Dieu. C'est un livre étonnant, riche et qui nous parle de toutes ces dimensions. Alors, hier, nous avons pris le temps de sonder l'Écriture et puis de voir ensemble ce qui était des richesses de ce livre pour nous aujourd'hui. Alors on a cheminé ensemble. Le livre de Ruth commence par cette phrase « au temps du gouvernement des juges », c'est-à-dire au temps où le pays de Dieu vivait en alternance dans l'ordre et le désordre, dans le retour à Dieu et dans son éloignement. Et comment Dieu suscitait des juges qui, au fur et à mesure, eux-mêmes, vont être dans la transgression, en tout cas, dans des attitudes, des positionnements mitigés. Jean-Marc Taubois a très très bien expliqué cette ouverture du livre des juges dans le livre qu'il consacre à ce livre. Et il parle de cette attitude du peuple d'Israël. Et c'est lui, dans ce livre-là, que je citais hier en formation, que Michel a recité ce matin, qui donnait le témoignage de quelqu'un qui était non charismatique et qui, s'adressant à Jean-Marc, lui disait « Vous savez, vous autres, les pentecôtisants, soyez prudents et attentifs en faisant que le baptême du Saint-Esprit ne soit pas une excuse pour ne pas sonder et lire l'Écriture. » Et Jean-Marc, dans ce livre, disait la conclusion, en tout cas ce point où nous en sommes arrivés, c'est de dire effectivement ce piège-là existe et il est présent dans nos églises. Et sous prétexte d'être baptisé du Saint-Esprit, le rapport à l'Écriture est devenu un rapport distendu. Alors moi, je suis très content de préparer des jeunes au baptême en ce moment. En tout cas, moi, je suis en entretien avec Lucie, mais chez Clouane, la même démarche avec Francine. Et une chose qui m'a réjoui, c'est que quand Lucie, dans son témoignage qu'elle vous donnera dimanche prochain, a parlé du moment où elle s'est donnée à Dieu, il y a une chose qui est arrivée en même temps. Et vous savez quoi? Elle a eu soif de la parole de Dieu. Elle a eu soif de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça fait du bien, un très vieux pasteur, d'entendre cela? Une jeune chrétienne qui dit, mais j'ai pas pu m'arrêter de lire la parole de Dieu. Alors maintenant, on se disait, on va lui offrir une Bible, traditionnellement, comme on le fait. Elle me dit, mais non, j'en ai déjà une, en français et en anglais. Je dis, bon, mais avoir cette soif, l'envie de lire l'Écriture. Et le livre de Ruth a des richesses à nous apporter, parce qu'il parle de plusieurs choses. Et ce matin, les trois points que je n'ai pas abordés, que je n'ai pas eu le temps d'aborder hier, ce sont les trois points, j'ai envie de dire, centraux du livre de Ruth, à savoir le retour, la rédemption et l'amour. Ce sont trois points que l'on retrouve et qui sont au centre du livre de Ruth. Alors c'est important de relire le livre de Ruth à cette lumière-là. Ce n'est pas simplement, si nous lisons le poème de Victor Hugo, « Beaux endormis », simplement une très belle histoire, comme le dit Goethe, une belle histoire d'amour. Ce n'est pas simplement une histoire de rencontre. Ce n'est pas simplement une femme qui rentre dans le pays d'Israël. C'est d'abord une histoire de retour. Et le retour, c'est ce qui concerne chacun d'entre nous, ce qui a concerné, qui concerne encore aujourd'hui. Les 5 premiers versets du livre de Ruth sont des versets qui posent la problématique. Au commencement, on était dans le temps du gouvernement des juges, un temps difficile, compliqué. Et puis, il y avait un homme de Bethléem en Juda qui partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. En ces temps compliqués. Que faire ? Rester ? Rester dans les champs d'Israël ou aller dans la campagne de Moab ? On est ici dans un livre qui commence à parler des croyants, de ceux qui ont reçu les promesses de Dieu. On n'est pas très loin de la période, je dirais, où Israël est entré dans le pays de la promesse. Que de routes accomplies, que de chemins parcourus pour enfin être dans le pays de la promesse. On pourrait se dire que les épreuves passées, les difficultés rencontrées font qu'une fois qu'on est enfin rentré dans les promesses de Dieu, on va s'y tenir, s'y accrocher. Le livre de Ruth commence par cette réalité. Élimélec et sa famille sont confrontés à un temps difficile. Et parce qu'ils sont dans un temps difficile, ils ont un choix à faire. Tenir ou partir. Rester dans les champs de Bethléem ou aller dans la campagne de Moab. Il y a une phrase qui en Israël dit « Pour les Juifs qui ne rentrent pas en Israël, cela équivaut à de l'idolâtrie. » Pourquoi ? Parce que pour le peuple juif, la terre de la promesse, c'est Israël. Et si tu restes en dehors, c'est de l'idolâtrie. Et j'ai envie de dire qu'on peut transposer cela à notre dimension, à nous, en tant que croyants. Notre terre de promesse, c'est Jésus-Christ. Quitter Christ, s'en éloigner pour aller dans les champs de Moab, ça équivaut à de l'idolâtrie. Ni plus, ni moins. Le livre de Ruth parle de ce choix qui est à faire. Est-ce que je reste dans les promesses de Dieu ou est-ce que je vais vers le plus facile, vers des temps qui sont moins compliqués? C'est un livre qui pourrait être pris comme une parabole. Un exégète disait, on pourrait presque dire que c'est une novellas. Vous savez, cette formule qui parle des nouvelles à la télévision américaine avec toute une histoire d'amour, des personnages qui vont à droite, à gauche, une novellas. C'est très à la mode en Amérique du Sud. Et un exégète disait, Ruth, c'est un peu comme une novellas avec des personnages comme cela qui font des choix. Le premier choix, c'est la question du retour parce qu'on est parti. On est parti d'où ? Il est dit que cette famille est partie de Bethléem, de Juda, alors qu'ils sont du clan d'Éphrata. On est forcé, lorsqu'on a ces premières données, de se dire il y a quand même un abandon des choses essentielles. Ils habitent à Bethléem, dans la maison du pain. Ils sont de Juda, louange à l'Éternel. D'Éphrata, la fertile. Il y a un temps difficile et on va à l'extérieur. On va chercher notre pain ailleurs, dans la campagne de Moab. C'est parfois ce que nous faisons nous-mêmes. Lorsque nous habitons, nous sommes dans, en Christ. Et que quelque part, lorsque des difficultés arrivent, la tentation est grande d'aller dans les champs de Moab. C'est le point de départ du livre de Ruth. Ensuite, une fois que les choses sont faites, eh bien, on peut rester en Moab. Et tout le livre de Ruth va poser cette question du choix. Qu'est-ce que je veux pour ma vie ? Est-ce que je reste à l'écart des promesses de Dieu, en dehors des promesses de Dieu, quel qu'ait été mon choix ? Ou bien est-ce que je fais et je prends la décision de revenir là où est ma place ? On peut s'entêter. Un auteur, André Vénin, posait la question. Alors, je l'ai posée hier, puis évidemment, tous les participants qui étaient là, me connaissant, on se sont dit, il y a un piège. Je posais la question, c'est qui l'héroïne de ce livre ? Vous voyez, vous avez la même réaction. Hier, ils se sont dit, il y a un piège. Si on dit Ruth, c'est trop évident. C'est qui le personnage central du livre ? Eh bien, pour André Vénin, qui est un prêtre spécialiste du livre de Ruth, il dit le personnage central, c'est Noémie. Et l'héroïne, c'est Ruth. Et effectivement, si l'on regarde attentivement ce livre, on s'aperçoit que l'histoire, je dirais, prend le parcours de la vie de Noémie. Du moment où elle décide de s'en aller avec son mari et ses enfants, jusqu'au moment où Ruth accouche et Obed, le fils de Boaz et de Ruth, est déposé sur ses genoux. Tout le livre suit ce parcours-là. Le départ. Quelqu'un, à la fin de la journée de formation, me disait « Oui, mais quand même, Noémie, elle était un petit peu obligée, c'est une femme, elle devait suivre son mari, être dans l'obéissance. » Ouais. C'est pour ça que ce livre est révolutionnaire au niveau de son contenu et de la place qui est donnée aux femmes. Effectivement, sociologiquement parlant, du temps de Ruth au temps des juges, il y avait une soumission qui était forcément plus importante à cette époque-là dans la structure sociale et familiale de la famille juive. Mais vous savez, je suis dans un centre de soins où on accueille des femmes qui sont alcoolodépendantes ou usagères de drogue. Et toutes nous disent le sentiment de honte et de culpabilité qui les habite parce que on ne traite pas et on ne juge pas une femme alcoolodépendante comme on juge un homme. Pourquoi ? Parce que le regard social est exigeant, a des exigences au niveau de la femme qu'elle n'a pas au niveau de l'homme. Un homme qui boit, on le dit souvent, c'est un bon vivant. Une femme qui boit, c'est une pochetronne. Pourquoi ? Parce qu'elle touche à une image que la société lui impose. Une image que sa mère lui a transmise et son père lui ont transmise. Une image que porte aussi son mari. La mère, il ne faut pas y toucher, l'image de la mère. La libération de la femme a commencé dans les années 50. Il y a eu une grosse étape dans les années 70, début 70. Pour autant, aujourd'hui, une jeune femme de 20 ans qui s'alcoolise depuis 5-6 ans de manière festive avec ses copains et ses copines, va le faire de manière publique sans problème. Mais dès lors qu'elle devient dépendante, ce qui est très curieux, c'est qu'elle retourne à une alcoolisation cachée parce que le regard des autres est trop dur, trop jugeant. Le livre de Ruth nous parle d'une femme qui effectivement a suivi son mari. On ne sait pas quel est le pourcentage de son choix à elle, mais quelqu'un avait raison de dire elle était quand même obligée de se soumettre. Mais dans les églises protestantes et évangéliques, la place de et la soumission de la femme dans l'église, c'est aussi une grande question. Quelle est la liberté de la femme aujourd'hui dans l'église ? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut apporter la parole, enseigner ? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut servir à la Sainte Cène ? Est-ce que, etc. Quelle est la place ? Ou est-ce que ce sont des représentations aussi que nous avons ? Alors on peut les respecter, mais où est la liberté et la place de la femme aussi dans l'Église ? Noémie s'en est allée. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je considère que Noémie, effectivement, est le personnage central, c'est que si elle s'en est allée, elle est revenue. Et le premier des thèmes du livre de Ruth, c'est la question du retour. Le retour dans les promesses de Dieu. Elle aurait pu continuer et s'obstiner. Elle dira à un moment donné, quand elle rentre à Bethléem, « Oui, mais je suis quelqu'un qui est amer. Ne m'appelez plus Noémie, la belle, la douce, l'agréable. Appelez-moi Mara, parce que l'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Je suis partie, j'avais les mains pleines, et je reviens, j'ai les mains vides, j'ai tout perdu. Mon mari, mes enfants, etc. Et ma place aussi dans le corps d'Israël. » Avoir le courage de revenir. C'est la première chose qui nous apparaît dans l'histoire de Noémie lorsqu'elle décide à un moment donné, j'ai entendu. Elle a entendu que Dieu avait été bon avec Israël, que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. C'est un verset qui a l'air de rien. Quelle est la motivation de Noémie ? Elle avait entendu que Dieu avait été bon pour son peuple en lui donnant du pain. Nous avons entendu que Dieu avait été bon parce qu'il a fait descendre un pain du ciel et qu'aujourd'hui il nous donne la vie. Et que en prenant ce pain, Jésus-Christ, eh bien nous avons part à la vie éternelle. J'ai entendu. Elle n'a pas vu. En ce sens, Noémie est proche de nous. Je dis souvent que les apôtres, moi, je serais, quand je verrais Pierre, je lui dirais, écoute mon gars, c'est vrai qu'on t'a mis sur un piédestal, il y en a même qui ont décidé que tu serais le premier pape, premier chef de l'Église, etc. Mais écoute Pierre, quand même, hey, c'était facile pour toi, hein, quand même. Tu as vu quelqu'un qui passait, qui guérissait les malades, qui rendait la vue aux aveugles, qui guérissait des lépreux, qui ressuscitait des morts, qui ressuscite le troisième jour, tu vois son tombeau vide. C'était facile pour toi, non ? Moi, dans les mêmes conditions, est-ce que j'aurais pas eu la même foi que Pierre ? À 15 ans, quand je suis rentré dans une église, je suis rentré dans une salle avec des chaises, vous allez dire, les vieux, vraiment. C'était des chaises en paille, vous savez, des chaises en bois avec un siège en paille, comme on faisait dans les marchés autrefois. Il y avait un vieux chauffage au fioul qui fonctionnait pas très bien. Je suis rentré dans cette salle et vous savez quoi ? J'ai pas vu Jésus. De mes yeux vus. Je l'ai pas entendu. J'ai entendu parler de lui et de ce qu'il avait fait en Jésus-Christ. Et en ce sens-là, nous sommes semblables à Noémie. Elle a entendu dire que Dieu avait été bon et a envoyé du pain. Et c'est un verset qui, pour moi, me parle de ce que nous avons vécu. Qu'est-ce que nous faisons de cela ? Alors, c'est quelqu'un qui s'est éloigné des promesses de Dieu. En ce sens, elle nous parle aussi dans notre situation d'aujourd'hui, quand nous nous sommes éloignés des promesses de Dieu. Que nous avons entendu des gens nous dire, mais Dieu... Voilà ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà ce qu'il rend possible dans la vie du croyant. Quand nous entendons cela, qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que nous revenons ? Est-ce que nous engageons une démarche de retour ? Ça s'appelle une conversion. Nous sommes appelés, toujours et encore, pendant toute notre vie chrétienne, à faire des actes, à vivre des actes de conversion, à revenir à Dieu. Noémie est un modèle dans ce sens-là. On pourrait dire oui, mais elle est partie dans les champs de Moab. Comme nous, bien souvent. Est-ce qu'il n'y a pas eu des temps où nous sommes allés en Moab chercher ailleurs ce que Christ peut et doit être pour nous ? Alors, elle a engagé ses belles filles dans une marche et puis elle s'est levée et elle a engagé ce retour. Il y a dans le chapitre 1 du livre de Ruth quelque chose d'étrange dans la démarche de Noémie. Parce qu'elle se met en route, il est dit qu'elle se leva, elle et ses belles filles, et elles s'en revint de la campagne de Moab. Elle quitte la campagne de Moab. La campagne de Moab a été un objectif. Là, elle décide de quitter. Le retour, c'est aussi une question de lâcher prise de ce qui n'est pas de ce que ne sont pas les promesses de Dieu pour nous. On ne peut pas rester en Moab et rentrer en Israël en même temps. C'est impossible. C'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce que je marche un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans le monde ? C'est difficile. qu'à cloche-pied. Non, elle quitte. C'est-à-dire elle rompt et elle retourne. Le retour, ça veut dire aussi une position où on change cette position, cette direction. Et ces belles filles, elle leur propose, elle les emmène avec elle. D'ailleurs, c'est dans ce verset-là, à partir du verset 6, que Noé parle de Orpa et de Ruth comme de ses filles, mes filles. Et plus tard, elle dira à Ruth, ma fille. C'est-à-dire que son fille, celles qui sont dans ce retour aussi vers Dieu. Elles se mettent en route. Et puis, ce retour semble étrange quand on lit l'attitude de Noémie, puisqu'elle s'adresse à ses belles filles en cours de route. C'est-à-dire qu'elle aurait pu le faire à la maison. Elles auraient déjà, alors je ne sais pas combien elles avaient parcouru de kilomètres, mais en tout cas, en cours de route, tout à coup, Noémie dit ceci au verset 8, « Retournez chacune à la maison de sa mère. » Étrange. D'un côté, elle dit « Mes filles », puis ensuite, elle leur dit « Retournez dans la maison de votre mère. » Alors, c'est qui la mère, là-dedans ?« Mes filles. » Dieu nous dit « Mon fils, ma fille, est-ce que tu es prêt à venir vers moi, ton père ? Est-ce que tu es prêt à t'abandonner, à choisir la terre qui t'est promise, la vie qui t'est promise en moi ? Ou bien est-ce que tu veux retourner ? Dans la tradition juive, il est dit que quand quelqu'un qui est non-juif veut se convertir au judaïsme, la procédure, c'est quoi ? Comment ? Non. La procédure qui est utilisée, c'est le décourager. Quand quelqu'un de non-juif veut être juif, le rabbin d'abord, il explique tout ce que les contraintes, il va le décourager. L'idée, c'est de vérifier quelle est la motivation de la personne. On va dire c'est pervers. Non, non, c'est une manière de dire devenir juif, c'est pas quelque chose de simple. Et c'est ce que fait Noémie, j'ai envie de dire, elle est dans cette procédure. Elle se met en route, il y a ces belles filles qui sont là, et puis tout à coup elle leur dit, eh bien, allez, retournez dans la maison de votre mère. Et puis arrive le deuxième point qui est important dans ce livre, c'est la bonté. Je vous remercie pour la bonté que vous avez manifestée pour ma famille, pour vos maris, pour mon mari. Vous avez fait preuve de bienveillance. Alors, j'invoque la bénédiction de Dieu de trouver du repos dans la maison d'un mari. Et elle va bénir ces deux femmes en disant, mais allez-y, rentrez. Là aussi, c'est le choix. Elle donne le choix à Ruth et Orpa de faire un chemin plus facile. Retournez dans votre maison. Retournez dans cet environnement que vous connaissez. Retournez vers vos dieux, votre peuple, vos pratiques. C'est beaucoup plus facile que de venir en Israël, dans l'inconnu. C'est un grand inconnu que de rentrer dans les promesses de Dieu, de découvrir la parole de Dieu, la sainteté de Dieu, la sainteté qu'il attend de nous dans notre vie, le changement de nos comportements. Vous avez fait preuve de bonté que la bonté de Dieu. La bonté, c'est la notion de recède. En hébreu, ça couvre à la fois la notion de bonté, de bienveillance et d'amour. Vous avez eu un amour actif. Eh bien, que l'amour actif de Dieu soit sur votre vie. Et puis, elle les embrasse. Et puis, vous avez les deux filles qui commencent à pleurer. C'est des filles. Oh, excusez-moi, j'enlève cette phrase-là. On voit qu'il n'y a que les hommes qui sourient. Elle les embrasse et se met à pleurer. Et dire non, nous irons avec toi vers ton peuple, etc. Et là, très étrangement, elle évoque la loi du Lévira. Est-ce que vous pouvez imaginer que, selon la loi de Moïse, puisque vos maris sont morts, que le plus proche parent, c'est-à-dire un des frères, puisse vous être donné, c'est-à-dire que je connaisse un homme, que j'ai un enfant, que cet enfant grandisse, et que vous puissiez l'épouser. Vous en avez encore pour au moins 18 ans. Est-ce que vous allez attendre cela ? C'est beaucoup trop dur. Alors, retournez. Et là, dans ce retour, il y a un personnage qui fait un retour négatif. C'est Orpa. Orpa décide de dire, ah oui, effectivement, quand tu me parles de cela, de la difficulté, de la charge, du poids, C'est trop dur, je retourne vers mon peuple. Vous savez quel est le nom d'Orpa dans sa langue? Orpa, ça veut dire nuque. Nuque. Ça veut dire que Orpa, c'est celle dont on voit la nuque. Parce qu'elle se tourne et qu'elle part. On ne voit que sa nuque. C'est, je dirais, un modèle de celle qui abandonne les promesses de Dieu qui lui étaient offertes et qui se dit non, c'est trop compliqué. Combien y a-t-il d'enfants de Dieu dont on a vu, dont on ne voit que la nuque? Parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans les promesses de Dieu. Ils peuvent même être dans l'Église, mais on ne voit que leur nuque parce qu'ils n'avancent pas face à Christ, face au soleil levant, face à l'étoile du matin. On ne voit que leur nuque. Il y a un deuxième personnage qui est dans le même cas dans le livre de Ruth. C'est celui qui a le droit de rachat par rapport à Ruth. On est toujours sur la question de la loi du Lévira, c'est-à-dire que la loi de Moïse prévoit que lorsqu'une femme a perdu son mari, les frères doivent, quelque part, se substituer, lui donner une descendance et que cet enfant ait une part d'héritage avec celui qui accomplira la loi de Dieu. Et lorsque Ruth rentre avec Noémie à Bethléem, eh bien, elle va rencontrer Boaz, et Boaz va lui dire « Oui, mais oh, d'abord, je ne suis pas le plus proche parent. » Il a raison parce que ce n'est pas un frère. Il n'est pas frère d'Elimelech, et à la rigueur, la loi ne devrait même pas s'appliquer à lui. Mais comme la loi a été étendue ou interprétée comme telle dans ce livre, eh bien, il se juge comme ayant un droit de rachat et de rédemption. Il dit « Ouais, mais moi, j'ai pas la première place. Il y en a un autre dans la ville à Bethléem qui est plus proche d'Elimelech que moi. Alors, je vais aller aux portes de la ville et puis je vais lui demander. » La porte de la ville, c'était l'endroit où on gérait le tribunal et les affaires un peu publiques qui demandaient un jugement devant les anciens. Et puis il va s'asseoir, il va... Vous savez ce qui est étrange dans ce livre de Ruth, c'est que cet homme-là qui a le droit de faire acte de bonté et de bienveillance, on ne connaît pas son nom. Parce que dans un premier temps, Boaz, qui est un petit futé quand même, il ne lui dit pas, « Oh là, oh, dis-moi, il y a Ruth... la belle-fille de Naomi qui est là, et donc on peut faire acte de bienveillance, en tout cas on peut faire jouer la loi du Lévira pour l'épouser, lui donner une descendance, etc. Non, Boaz va utiliser un discours très particulier, il dit « Oh, excuse-moi, toi, oui, viens, écoute, je voulais te parler parce que, et devant les anciens, parce qu'il y a un petit problème à régler. » Il y a Noémie qui est en train de vendre un champ. Tu sais, Noémie, la femme d'Elimelech qui était partie, etc. Et elle est là, elle va vendre un champ. Est-ce que tu veux le racheter? Tu as la primeur par rapport à moi. Donc, et puis le type dit, ah bah oui, un champ, oui, pourquoi pas, après tout, c'est une bonne affaire, tout. Puis Boaz dit, ah oui, mais attends, ouais, j'ai oublié de te dire. Ça m'est sorti de l'esprit. J'ai oublié de te dire, si tu achètes le champ, il faut que tu épouses aussi Ruth, qui est la belle-fille de Noémie, parce que en fait elle fait partie du lot. Hein, c'est tu fais jouer ton droit de Lévira, il faut que non seulement t'achètes le champ, mais surtout il faut que t'épouses la fille. Ah bon. Non alors. Non, parce que tu comprends, si je prends cette femme pour épouse, que je lui donne un enfant, parce que c'est le but de la loi du Lévira, ça veut dire que cet enfant-là va avoir une part d'héritage, pas seulement sur le champ, mais sur tous mes biens. Alors, non, écoute, non. Bon, d'accord, on échange nos chaussures. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on signait pas des contrats à l'époque. On prenait sa chaussure, on la donnait à l'autre. Pourvu qu'il fasse la même pointure que moi. Donc, et les choses se sont passées comme ça. Cet homme-là, dans la Bible hébraïque, comme dans nos Bibles, si vous lisez attentivement, cet homme-là, on dit un tel. Il n'a pas de nom. Très étrangement, les noms dans le livre de Ruth ont un sens particulier. Orpa, celle dont on voit la nuque et qui s'éloigne des promesses de Dieu. Un tel qui n'est pas nommé parce qu'il n'est pas digne d'être appelé par un nom, parce qu'il refuse d'accomplir un acte de bonté et de bienveillance. Dans le retour, il y a cela. Est-ce que je rentre dans les promesses de Dieu de manière pleine et entière? Ruth va faire cette démarche-là. Orpa va s'éloigner. Il y a quelque chose qu'on a abordé hier soir, qui est une approche aussi, on a vu plein d'approches historico-critiques, poétiques, etc. Et une approche que j'ai réfléchie, j'ai pensé, elle est pas dans les approches qu'on voit habituellement, mais comme dans mon travail, je travaille dans les sciences humaines avec d'autres angles, j'ai appelé ça l'approche par génogramme et transmission transgénérationnelle. Papa, c'est pompeux, hein? Ça vous en bouche un coin, hein? L'approche transgénérationnelle. Oh, en clair, c'est pas très compliqué. L'approche transgénérationnelle, c'est une approche qui part de ce principe dans les sciences humaines que nous sommes dans une génération à transmettre des dons, des capacités, parfois des traumatismes, des blessures, des altérations dans la vie de celui vers lequel on s'adresse. Ça peut être notre conjoint, hein. Mais ça peut être surtout transgénérationnel vis-à-vis de nos enfants. Il y a ces transmissions qui sont évidentes. Est-ce que vous connaissez des personnages de la Bible qui ont transmis des comportements, je dirais, qui découlaient de la manière dont ils ont été en relation avec leurs enfants? Est-ce que ça vous dit quelque chose dans l'Écriture? Dans l'Ancien Testament notamment. Mais Michel, il sourit, donc il y a une réponse. Vas-y. Jacob, ouais. David, ouais, sont des personnes, quand on lit l'Écriture, qui ont eu des transmissions au niveau générationnel, qu'ils ont portées ensuite et qu'ils ont manifestées, soit de manière positive, soit de manière négative. Si on prend Jacob, c'est un exemple très, très intéressant. Il a un frère, et quelque part, sa mère fait en sorte de le privilégier au détriment de son autre fils. Vous vous rappelez cette histoire de droit d'aînesse, etc., etc. Lorsqu'une mère se comporte comme cela, elle transmet quelque chose en termes de valeur. Il y a un autre personnage dont on pourra parler, c'est Cham. Cham est aussi un homme qui a transmis des valeurs, et c'est comme ça qu'on peut interpréter, je dirais, la malédiction de Cham. Mais on revient sur Jacob et Ésaü. On dit que son nom, c'est menteur, tricheur. Hein? Mais qu'est-ce que fait sa mère quand elle veut que Jacob puisse avoir le droit d'aînesse? Elle lui met des peaux sur les bras pour qu'il ressemble à son frère, etc. Elle lui transmet des valeurs qui sont des valeurs de « tu t'empareras par tous les moyens, légaux ou pas, moraux ou pas, de ce qui est le meilleur pour toi ». Comment peut-on imaginer que Jacob puisse se comporter autrement? Elle a transmis à Jacob cela. On peut penser à David. Lorsque Samuel vient et dit à Isaïe « écoute, je suis venu voir tes fils parce qu'il y en a un d'eux qui va être roi d'Israël ». Puis fait défiler tous les fils. Aucun. Alors Samuel est dépité. Il se dit, mais enfin, je n'ai pas rêvé. C'est bien ce que Dieu m'a demandé. Il ne te reste pas un garçon? Ah si, le petit. Il est dans les champs. J'ai complètement oublié. Va l'appeler. Et quand David arrive, c'est lui. Quelle est la transmission de cela? De ce comportement du père par rapport à son fils? Je l'ai oublié. Je n'ai pas pensé à lui. C'est le tout petit. Ça vous donne un homme qui, malgré le fait qu'il soit roi, dira dans un psaume, « Je suis comme une puce sur le dos d'un chien. J'ai pas plus de valeur. J'ai pas de valeur. » D'ailleurs, mon père, il ne m'accordait pas beaucoup d'importance. Et d'ailleurs, quand David va aller voir ses frères en train de combattre les Philistins, les frères disent « Mais enfin, bouge-toi, tu ne sers à rien, tu nous gênes, etc. » C'est celui qui ne sert à rien, qui n'a pas de valeur. Cham, qui est maudit par son père, Noé, le texte dit, et c'est là quelque chose de flagrant, même si on ne l'interprète pas comme ça, mais je lis souvent ce texte avec des patientes de cœur du dos, parce qu'il parle pas simplement de l'alcoolisme de Noé ou de l'alcool de Noé, mais il parle de l'attitude de ceux qui sont autour. Or, la malédiction de Noé et de Dieu sur Cham, c'est « maudit soit... » Non. Non. Maudit soit Canaan. Merci Michel. Maudit soit. Alors les femmes se sont dit, mais il n'est pas bien Noé. Oui, c'est Noé. Pourquoi est-ce qu'il maudit le petit-fils? Il n'a rien à voir dans l'histoire. On ne le voit pas dans le récit, etc. Pourquoi est-ce que Dieu dit que la malédiction sera sur Canaan? Parce que Canaan recevra les valeurs qui lui sont posées dans son éducation par son père. Nos fils sont, et nos filles sont porteuses et porteurs des valeurs que nous transmettons. C'est ça la transmission générationnelle. Si, pour moi, ce qui est normal, c'est de rabaisser mon père, maudit soit son fils, la malédiction soit son, sera sur ton fils, parce que ce que tu vas transmettre, c'est ça. Ça ne veut pas dire que le fils sera maudit par Dieu, mais le père va transmettre cela et ce sera porteur de malédiction. Après, il y a une mauvaise interprétation qui peut avoir des conséquences, hein, puisque l'esclavage est né de la mauvaise interprétation de ce passage. Là, on est dans une transmission générationnelle. Ah, c'est lourd, hein. Tout à coup, tout le monde pense à son papa, à sa maman, à son grand-père, à son arrière-grand-père, en se disant « Ah ouais, c'est vrai que je n'avais pas pensé que j'avais ces bagages-là. » Ruth et Boaz ont une particularité. C'est que l'un et l'autre sont issus d'une génération où leurs ancêtres sont nés de l'inceste. De la croyance qu'il n'y a plus, il n'y a pas de possibilité de faire circuler la vie dans la famille, du côté de Ruth, ou de la croyance que finalement, je me suis totalement planté et j'ai fait une erreur et du coup je vais devoir l'assumer et mes enfants et les enfants de mes enfants la supporteront. Du côté de Ruth, c'est l'histoire de Lot à Sodome et Gomorre qui sort avec sa femme, ses deux filles, célibataires, sans mari. Et puis Dieu les épargne, ils gravissent la montagne, et puis Dieu dit, et là on est bien sur la notion du retour, retour dans les promesses de Dieu. Lot, c'est vraiment un modèle d'Élimélec, le mari de Noémie. C'est quelqu'un qui va aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Quand Abraham lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu vas à droite, je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. Et Lot dit, oh, attends. Et là, les pâturages, ils sont drôlement verts. Ah, ouais, il y a des villes qui sont pas forcément très très saintes. Hein. Sodome, la règle des hommes qui étaient là, la règle, c'est ce que disent les exégètes des textes anciens, disent Sodome, la règle, c'était que les hommes souhaitaient connaître sexuellement tous les hommes passagers dans la ville. C'est ce qu'on lit aussi dans le texte. Oui, mais quand même, les pâturages sont bons. Hein. Allons donc par là. Et Lot va être, par la prière d'Abraham aussi, sauvé. La règle, c'est tu ne regardes pas en arrière. Sois pas hors pas. Ne regardez pas en arrière. Laissez derrière vous. Rentrez à nouveau dans les promesses. Est-ce que vous faites un vrai retour? Et qu'est-ce qui se passe? La femme de Lot regarde en arrière. C'est-à-dire qu'elle tourne ses regards pleins de regrets de ce qu'elle laisse derrière. Combien de croyants sont encore dans le regret de ce qui a été hier? Que ce soit des terrains qu'on espérait avoir ou des erreurs qu'on a faites en disant oh, « mais c'était tellement bien, zut, statut de sel ». J'avais lu une vieille histoire quand j'avais 16-17 ans, c'était pas du tout chrétien, mais où des archéologues ont découvert dans une grotte du côté de Sodome une statue magnifique représentant une femme. Je me dis, mais on ne sait pas en quoi c'est fait, mais c'est fabuleux. Donc ils l'ont chargé dans le camion, et puis ils ont pris la route, et puis ce jour-là, il pleuvait. Quand ils sont arrivés à destination, la statue qui avait été exposée à la pluie avait fondu. C'était la statue de sel. J'aime bien cette histoire-là. Il y a combien de chrétiens qui fondent, qui disparaissent, parce qu'ils ont regardé en arrière et qui ne sont plus du tout dans la pensée de Dieu. Lot a vécu cela. Et dans la nuit, ou dans les nuits qui ont suivi, ses filles ont dit, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'homme pour nous. C'est terminé. Alors, elles se disent, on va coucher avec notre père, le fait, en enivrant Lot, la seconde le fait, et de leur union naîtra Moab et... J'ai oublié le deuxième. J'ai... un son frère. Deux tribus qui vont être en opposition avec Israël. Moab, ça vous dit quelque chose? Ruth, là, Moabite. Quelle génération, quelle transmission de génération il y a. Du côté de Boaz, pas mieux, hein? Boaz, ses ancêtres, et cette transmission générationnelle, je ne l'invente pas. Parce que le livre commence par le peuple d'Israël, et la dernière bénédiction qui est faite sur l'enfant qui naît, sur Boaz, c'est « Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, du coup, c'est plus une Moabite, par cette jeune femme. Rendre ta maison semblable à la maison de Pérets que Tamar enfanta à Juda. » Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Vous vous rendez compte que la loi du Lévirat, c'était pour relever le don de Élimélec. Cherchez, dans les généalogies de David, ou de Jésus-Christ, le nom d'Élimélec. Pourtant, la loi du Lévirat, c'était bien de relever le nom d'Élimélec. Et non, c'est celui de Boaz. Mais Boaz, c'est qui? C'est quelqu'un qui descend de Juda, qui à un moment donné va épouser une femme étrangère, va avoir 3 enfants, son premier fils meurt alors qu'il est marié, il accorde cette femme-là à son second fils, Onan dit « Oh là, oh là, oh là, oh là, elle a fait mourir mon frère, et puis quelque part, moi j'ai pas envie, comme le Intel, hein, j'ai pas envie de partager mon héritage, donc il a des actes qui sont... Voilà, très clair, il se masturbe pour éviter de donner une naissance ou des enfants à Tamar. Dieu le fait mourir. Et là, Judas se dit, oula, mon troisième, il est un peu jeune. Oui, je te le donnerai. On est avant Moïse. Il y a déjà ce concept du Lévira qui existe. Ça n'a pas été inventé du temps de Moïse. Ça existait déjà, puisque c'est du temps de Judas. Et puis, Tamar, elle attend, il n'y a rien qui vient. Jusqu'au moment où elle va piéger son beau-père, elle va coucher avec lui, elle va être tombée enceinte et elle va avoir 2 enfants, dont l'un est Pérets. Pérets, celui dont il est parlé dans la bénédiction. Comment, avec de tels ascendants, on peut vivre une bénédiction? Eh bien, parce qu'il y a en Dieu une guérison du passé. Une guérison de toutes les transmissions qui ont pu être déposées sur nos têtes et sur nos vies. Le retour. Retour à Dieu, ça comprend, alors je cite souvent l'introduction de l'Épître aux Éphésiens, ça comprend toutes les promesses qui se trouvent en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes prêts à vivre ces retours-là? En Dieu. À être des Ruth. Ça, c'est simplement la question du retour. La deuxième, je ne vais pas faire les 3 parce que je n'aurai pas le temps, comme quoi, vous voyez, il faudra encore revenir. La deuxième, c'est la question de rédemption. Au centre du débat, la question du Lévirat, c'est comment quelqu'un joue un rôle de rédempteur. Tout vient du terme goël, en hébreu, qui est celui qui rachète. Celui qui fait jouer le Yaboum ou la loi du Lévirat, c'est celui qui est le Goël, celui qui rachète pour Dieu. Ah, ça donnait en latin le mot rédempteur. Ça nous dit quelque chose quand même. Qui est notre rédempteur qui nous rachète pour Christ, pour Père, pour le Dieu, pour Dieu éternel? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Eh bien, là, on a un Boaz qui joue ce rôle. Je suis celui qui peut racheter. Alors, Noémie, elle a une personnalité assez particulière parce que on sent qu'elle a saisi des choses, et en même temps, elle est encore un petit peu avec ses anciennes habitudes. On partageait sur l'interprétation à avoir lorsque Ruth va dans les champs. Elle va glaner dans le champ d'un certain Boaz, et Ruth est tout sauf une femme, vous savez, comme l'a décrit Goethe. Oh. Douce, soumise, voilà, jolie. Non. Il est dit que quand elle part sur... elle glane dans les champs et que Boaz la voit, le serviteur lui dit, mais c'est qui? Boaz lui dit, c'est qui cette femme-là? Il lui dit, c'est la belle-fille de Noémie, etc. La jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. Elle a dit, elle a dit... Elle n'a pas demandé la permission. Elle a dit, Je vais glaner et ramasser les épis entre les gerbes et derrière les moissonneurs. Vous savez quoi ? Ça, ce n'est pas la loi, la Torah. La Torah, c'est on laisse passer tout le monde, le propriétaire, ses ouvriers, on met les gerbes, etc. Et une fois que tout est enlevé, la loi précise que les pauvres peuvent venir glaner dans le champ. Ça, c'est la loi, pour que les pauvres aient à manger. Ruth a dit pas ça, elle dit, le chef de chantier, il dit à Boaz, elle m'a dit, je vais glaner, ramasser des épis entre les gerbes. Ça, c'est plus que la loi. Elle dit, non, moi, je vais pas venir après tout le monde, je vais venir au milieu des gerbes et je vais glaner à ce moment-là. C'est-à-dire, elle ne prend pas, elle ne considère pas qu'elle doit prendre les restes, les petites choses, etc., d'une manière, voilà, je suis pauvre, il faut que je glane, ramasse les quelques épis. Non, je vais aller au milieu des gerbes et je vais ramasser ce qui est tombé. C'est une femme qui veut la bénédiction de Dieu, qui veut être bénie et qui est active pour être béni. Parce que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui consiste à s'asseoir sur sa chaise en se disant « Allez, vas-y Seigneur, j'attends. Tu pourrais me bénir ?» Ça fait une semaine que je suis là, un an que je suis dans l'église. Tu veux bien ? Non. Quand elle arrive à Bethléem, elle rentre dans son appel. Elle rentre dans la vocation, je dirais, qu'elle a reçue à l'intérieur d'elle en se disant « Je vais aller glaner. » Voilà, maintenant on est à Bethléem, ça ne suffit pas d'être à Bethléem. Encore faut-il que je sois active, actrice de mon salut. Il y a tellement de croyants qui pensent qu'il suffit d'être dans l'église pour être béni et qui oublient cette notion de travailler à son salut. Est-ce que je vais glaner ? Et si je glane, est-ce que je me contente ? Michel, t'aurais pas juste une petite parole de bénédiction hein ? Mais pas grand-chose, hein, Michel. Juste un petit quelque chose, tu vois, qui me puisse faire la route pendant une semaine, que je puisse comprendre la... Mais juste un petit... Si tu peux, avec 5 minutes, avec 4 minutes, 3 minutes à me consacrer. On a tellement de chrétiens qui sont minimalistes dans ce que Dieu veut leur accorder. Ruth, elle dit, chef de chantier, « Moi, je vais aller glaner au milieu des gerbes. » C'est ce qui fait que quand elle rentre à la maison, Noémie dit, « Mais comment t'as fait ? Comment ça se fait que t'as autant de grains ?»« J'ai été glaner. » Elle a été actrice. Et là, Boaz va jouer aussi en réponse à cela. Vu l'attitude de Ruth, il va jouer son rôle de rédempteur. C'est qui cette femme ? Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. En clair, ça veut dire quoi ? Reste là où je suis. Va pas ailleurs, reste là. Et je vais te bénir. Est-ce que Dieu ne nous dit pas la même chose ? Je ne parle pas de l'Église, hein. Je ne dis pas qu'il faut rester dans l'Église apostolique. Je dis, mais est-ce que l'on n'a pas cette parole de Dieu qui dit « Ne va pas aller glaner ailleurs ?» J'ai des jeunes en ce moment ou des personnes qui me disent « Ah, sur Internet, j'ai entendu !» Et puis qui entendent des enseignements complètement, je dirais, hétéroclites, avec des orientations très inquiétantes, voilà, sur les attentats, sur les, toutes les choses qui peuvent advenir toujours très très sombres, etc. Où est-ce qu'on va glaner ce qui construit notre foi, notre relation à Dieu ? Où est-ce qu'on va glaner ? Ne va pas glaner ailleurs, ne t'éloigne pas, attache-toi à mes servantes, c'est-à-dire quelque part dire aussi, attache-toi à mes servantes, à ceux qui m'appartiennent, qui sont à moi. C'est aussi un message, je dirais, de Christ à son Église. Attachez-vous les uns aux autres. Que votre amour vous rendent dépendants les uns des autres. Restez dans mon champ, quel que soit le nom de votre église, de votre communauté, etc. Mais restez dans ce corps qui est là. Restez, ne vous éloignez pas. Et il dira même, je vais faire en sorte que vous ne couriez pas de risque, que tu ne sois pas agressé. C'est étrange, hein. J'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher. C'est-à-dire, voilà, je vais aussi te mettre en sécurité. reste dans mon champ, je suis le maître du champ et je te garderai en sécurité. Est-ce que ce ne sont pas des paroles qui nous parlent aujourd'hui à nous ? Je veux rester dans le champ de l'Éternel, dans le champ de Christ. Et en fait, l'autre thème, le troisième que je n'aborderai pas maintenant, c'est la bonté et l'amour. C'est le thème central de Ruth. Du moment où elle est dans cette famille, elle fait preuve de bonté et d'amour. Et Dieu fait preuve à son égard de bonté, du chesed, la bonté et la bienveillance. C'est l'attitude que Dieu attend de nous par rapport à un plan horizontal. Et le plan horizontal, il commence à, pas à l'église, hein, il commence à ma famille, ma femme, mes enfants, mes voisins, mes collègues de travail, les membres de l'église. Est-ce que je suis quelqu'un qui est porteur de chesed, la bonté et la bienveillance? Vous savez, vous connaissez ce texte de l'Évangile qui dit, qui met ces mots dans la parole d'un homme qui s'approche de Jésus, « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Boum ! Les 10 commandements, minimum. « Ouais, mais je le fais déjà. » Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oh, ça je fais déjà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Faire preuve de bonté aussi vis-à-vis de soi. Est-ce que ça, on a cette attitude? Faire preuve de bonté, c'est-à-dire de vouloir pour soi être dans une attitude de bonté telle que Dieu en a par rapport à moi. Et puis ensuite, de faire preuve de bonté vis-à-vis de certains autres. Quelqu'un me faisait part il y a quelque temps, il y a quelques mois, de sa difficulté avec un membre de sa famille, et se dire, oh, cette personne-là, je ne la supporte pas, c'est difficile, quand on est ensemble, puis je dois y être, parce que c'est quelqu'un de très très proche, etc. C'est dur, c'est compliqué. Or, quand je suis là, je suis un peu excédé. Qu'est-ce que je dois faire? Fais preuve de bonté. Fait preuve d'amour. C'est gratuit, ça ne coûte rien, et c'est seulement l'amour de Christ qui peut gagner l'autre, faire changer l'autre. Je peux entrer en résistance, hein, et à ce moment-là, on s'engage dans une partie de tennis à long terme. Boum ! Ah, elle revient. Boum ! Ah, ça revient. Boum ! Et si je faisais preuve d'amour et de bonté. On est dans la parabole de celui qui a une dette par rapport à un maître et qui a cette dette qui est remise et qui va voir quelqu'un qui lui doit quelque chose et qui l'envoie chez l'huissier. Non, ça ne sert à rien. Que la dette qui m'a été remise me pousse à être dans une attitude de bonté et de bienveillance pour gagner l'autre à Christ. C'est l'attitude de Ruth, ce sera l'attitude du Goël, de Boaz, et ça aboutira à cette fin du livre de Ruth qui s'ouvre sur « Voici la postérité de Boaz et de Ruth. Élimélec a disparu, Malon et Kilion ont disparu. Restent ceux qui ont été fidèles et qui ont cru et qui ont fait preuve dans la rédemption dont ils ont été les bénéficiaires, qui ont fait preuve d'amour et de bienveillance. » Que ça puisse être aussi un livre qui nous parle de cela pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole qui est d'une telle richesse, une telle profondeur. Merci pour cette parole qui peut transformer des vies, qui peut transformer ma vie, aujourd'hui et maintenant. Donne-moi Seigneur de lire ta parole avec ton Esprit Saint pour sonder ta volonté, pour connaître ta parole, tes pensées pour ma vie. Donne-moi, Seigneur, de rentrer dans tes mystères, dans cette terre promise qui est là pour moi, de ne pas tourner le dos, de ne pas m'éloigner, de ne pas la refuser, mais d'entrer véritablement dans ce que toi, tu trouves bon pour moi. Seigneur, bénis-nous dans le nom de Jésus. Amen.